l'histoire n'est pas une nostalgie, mais c'est un tremplin nécessaire pour l'avenir.
Le témoin de ce vendredi, François Pesflug, un dominicain qui largue les amarres.
Le cycle de la journée dominicaine s'achève. Le masque ouvert du clocheton veille dans le ciel. L'architecture de la vie communautaire se résout harmonieusement dans les formes de la vie personnelle.
François Pesflug considérait-il, comme ce film, l'ordre de Saint-Dominique à la façon d'un havre? Sans doute pas, c'était plutôt pour lui un lieu de frontière où on pratiquait la parole et l'explication. En tout cas, on peut dire qu'il en a été amoureux et qu'il l'est resté à bien des égards. On doit bien constater aussi qu'il vient d'en partir, sans guère provoquer de réaction de ses frères ou supérieurs. Un dominicain, par définition, doit étudier à vie. François Pesflug dit avoir eu une carrière d'enseignant, modeste mais digne de ce nom. Enfin, il faut entendre par là qu'après de nombreux ouvrages de référence, il est devenu le spécialiste d'un sujet crucial aujourd'hui, les images de religion et les religions devant les images. Seulement, lorsque vient l'âge de la retraite de l'université et qu'il fait un peu plus tard une rencontre décisive, il comprend qu'en réalité, rien ne le retient plus dans l'ordre où il avait longtemps imaginé finir sa vie. La décision n'a pas dû être facile, ni la rédaction d'un livre qui paraît 2 ans après et tente de la placer dans une perspective longue. Il ne s'y fait pas que des amis, mais mieux vaut parler franc, sans langue de buis. D'autant que François Pesflug entend continuer à dire que le Christ des évangiles, à ses yeux, est un joyau absolu.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
François Pesflug, bonjour.
Bonjour Jean Lebrun.
Le titre de votre livre chez Jean-Claude Béart, un titre à 2 volets.
Oui, parce que je voulais... Si vous
et c'est
voulez,
quoi le titre?
Pourquoi j'ai quitté l'ordre
vous
et
vous
comment...
Vous avez du mal à le dire.
Oui. Non, pas du tout. Et comment il m'a quitté.
Voilà. Alors, vous entrez dans un ordre en 1965. Vous étiez ingénieur des mines. Bon, vous n'aviez pas l'intention vraiment d'être prêtre. Enfin, vous l'êtes devenu parce que les dominicains vous l'ont demandé. Mais un ordre, c'est quelque chose de très singulier que vous avez choisi en toute connaissance de cause.
Oui, et pas parce qu'il fait accéder à la prêtrise, mais parce qu'il promet une vie commune avec une sorte de passion du débat commun. Une spiritualité de la discussion permanente, si vous voulez, autant que de l'étude éternelle.
Quand la télévision a diffusé le film Les Cathares, il paraît que les provinciaux des deux provinces qui constituent la France ont recommandé aux frères de Saint-Dominique de ne pas sortir en habit dominicain, parce que là, Saint-Dominique n'avait pas toujours donné l'impression d'aimer la discussion. C'est pas de ça que vous vous souvenez le plus. Dans sa vie, dites-vous, il a discuté une nuit avec un cathare pour essayer de le convaincre.
Si, c'est une sorte d'emblème de l'esprit dominicain. Quel que soit le client, même si c'est un pauvre homme, un homme très simple, eh bien, on le rencontre et on a la passion de cette rencontre par des mots.
Mais vous pratiquez la discussion très vite chez les dominicains dans le noviciat où vous commencez, puis ensuite ce sera dans un couvent.
Le père maître, dès le noviciat, m'a fait comprendre qu'il y a des questions qu'il est difficile d'aborder parce que les sensibilités sont différentes parmi les novices. Il y en a des plus fragiles que d'autres, etc. Donc j'ai compris tout de suite que l'idéal de tout est discutable et on y passe le temps qu'il faut était passablement écorné dans la pratique.
Mais enfin, tout de même, vous êtes à peine arrivé que 2 ou 3 ans plus tard, c'est mai 68, la prise de parole. Ça, c'est un mot qui devrait convenir aux dominicains. Il y a peu, une petite dizaine d'années, un certain nombre d'anciens dominicains, souvent avec leurs épouses, sont venus visiter le couvent de la Tourette, à côté de Lyon, où les recevaient d'autres anciens dominicains, et des dominicains restaient dans l'ordre. Voici le témoignage, c'est au micro de Jean Kergris, c'est un documentaire de France Culture, de Pierre-Luc Séguillon, qui sera plus tard un grand journaliste de la presse écrite et de la télévision. Il évoque 68.
Mai 68, on était quelques-uns qui, en même temps que nous suivions le cursus de théologie, faisions des études en université à Lyon. Moi, je faisais des études d'arabe. Bien. Donc on a vécu dans une espèce de schizophrénie. Une partie de la semaine, on était à Lyon. On lançait quelques pavés, on avait le sentiment de faire la révolution, puis on revenait ici. Alors évidemment, on revenait au couvent avec porteur de tout ce qui se passait à l'extérieur. Et l'idée qu'on vivait une sorte de rupture, de bouleversement. Et au bout d'un moment, on a convoqué des réunions, tout le monde se retrouvait. C'était au couvent des discussions sur ce qui se passait à l'extérieur. Alors il y avait quelques pères, je me souviens d'un père qui était affolé, qui croyait que c'était vraiment soit 1917, soit... Et qui était quasiment enfermé dans sa cellule.
Le drapeau rouge a flotté.
Non, pas ici. Non, c'est au Solchoir, la province de Paris. Ici, jamais. Et au bout d'un moment, je crois que c'était en juillet, on a exposé l'idée, on était quelques-uns, s'installer à Lyon dans un appartement. Et la communauté à laquelle on appartenait, je crois qu'elle a duré 2 ans, et puis elle a éclaté. Bon, ce qui s'est passé, au fond, le grand mouvement, c'était de s'insérer dans la vie des gens. Et puis, à force de s'insérer, on s'est dilué et on a perdu toute originalité. Donc.
Pierre-Luc Séguillon était à la Tourette. Vous confirmez, vous, François Bosluc, qui étiez au Solchoir,
au même moment
d'études, que le drapeau rouge a flotté sur la marmite.
Ah, bel et bien, oui, sur le plus haut édifice de cet immense bâtiment. Et on a même coiffé une statue en bronze de saint Thomas d'Aquin d'une espèce de drapeau nihiliste ou je sais pas trop quoi, noir, lui. Bon, alors j'y étais, effectivement.
Et alors ici.
Et alors, on a eu à peu près à vivre ce que Séguillon décrit, c'est-à-dire une série d'assises très solennelles avec, je sais pas comment dire, la conviction que nous vivions un moment d'histoire absolument unique. C'était un tournant même de l'histoire universelle du salut, tout comme.
Et qu'il fallait prendre le train d'urgence à la gare d'Evry pour rejoindre Paris.
C'est ça. Des frères venant nous annoncer d'une certaine manière la bonne nouvelle du boulevard Saint-Michel tous les soirs parce qu'ils y allaient, ils rentraient et ils nous prévenaient de ce qui s'était passé. Mais comme s'ils racontaient les évangiles, les nouveaux.
Et après, vous vous êtes mis à Marx, à Freud ?
Moi, pas. Parce que j'étais venu chercher autre chose. J'ai très mal vécu cette ambiance pseudo-révolutionnaire. C'est la spécificité dominicaine que je cherchais, et pas du tout à me mêler à, je sais pas trop quoi, un mouvement libertaire du boulevard Saint-Michel. Ça m'intéressait pas. Donc j'ai continué, et je me souviens encore à Saint-Jacques déclarant que je passais l'année à lire Saint-Augustin, mais on me regardait comme une espèce de dernier des Mohicans, parce que beaucoup de frères lisaient effectivement Marx, Hegel, Nietzsche, des autres de ce genre.
Au fond, vous êtes plus classique qu'on pourrait le penser.
Mais au départ, je voulais même être classique, c'est-à-dire je voulais aller droit à l'essentiel d'une tradition et je n'avais absolument aucune prétention d'être original ni révolutionnaire.
Mais enfin, les Dominicains, c'était des gens modernes. Par exemple, La Tourette, on va retrouver ce documentaire de Jean Kergrist où des Dominicains viennent visiter leur ancien couvent. La Tourette, ça a été construit à la demande du père Couturier, l'animateur de l'art du XXe siècle, une excellente revue en imitation du couvent cistercien, du monastère cistercien de La Tourette, mais confié aux Corbus. Alors, réaction des frères bien des années après.
Le religieux dominicain retrouve dans sa cellule le carré de Le Corbusier. Perfection, dans laquelle la nature peut s'installer avec toute sa sève, l'ordre, la méditation, l'harmonie et la vie.
Le père Couturier a inspiré Le Corbusier sur des modèles, un schéma cistercien.
C'est la première erreur, c'était celle-là?
Oui, qui n'est plus, c'est la première erreur. Et alors, avec... C'est quand même cette ouverture au monde par les vitres, mais c'est quand même une ouverture sur la nature et non pas sur les hommes.
Ah, c'était la deuxième erreur. Est-ce que cette architecture du Corbus, avec son aspect contraignant et en même temps exaltant, puisque toi tu
les deux.
Étais...
Moi j'étais
les deux. Est-ce que ça a joué un rôle dans ton arrivée, j'imagine, mais dans ton départ?
Non, j'ai jamais regretté, j'ai toujours eu le coup de cœur... fanatique de ce lieu.
Bon, c'est l'implantation qui est mauvaise.
C'est l'implantation qui est mauvaise. Vous n'êtes pas seul à dire cela, vous voyez. D'autres dominicains l'ont pensé avant vous.
Oui, je ne prétends là pas plus qu'avant d'être original. Je suis très content qu'on remette en question, si vous voulez, quelque chose que l'autorité du père Marie-Alain Couturier a considéré comme un acte infaillible de prescience. Mais non, ça n'est pas un acte de prescience, c'est une erreur. Je suis très content qu'un autre que moi le dise. C'est une erreur parce qu'il a calqué ça sur, je crois, le monastère cistercien du Toronnet. Bon. Or, les cisterciens, par définition, ont une spiritualité du retrait du monde, là où Saint-Dominique a voulu au contraire que ses frères aillent en ville, dans les universités, parmi les gens, dans des petites structures, etc., etc.
À entendre le film de promotion de la Tourette, produit par l'Ordre, la cellule de la Tourette, de Le Corbusier, c'est la perfection même. Enfin, pour qui a eu la chance d'y coucher, c'est très sonore, très étroit, on se dit à ce moment-là, le célibat, c'est pas facile.
Non, c'est même d'une austérité dont on peut se demander si elle est longtemps vivable, surtout à l'époque où la durée de vie moyenne des individus s'allonge. C'est très dangereux pour les vœux. De fait, la vie à l'Arbrel, moi aussi je l'ai connue et j'ai moi aussi habité une de ces cellules, pas longtemps il est vrai, mais justement j'étais très content que ça ne dure pas. Parce que pratiquement, si vous voulez, un homme de ma taille arrive à toucher les deux murs, c'est dire combien elle est étroite, il n'y a à peu près pas de place pour mettre des bouquins. Or, quand on nous prie d'étudier à vie, il faut qu'on nous permette au moins d'avoir des livres, c'est où les mettre. Bon, on peut toujours les mettre sous le lit, mais c'est quand même pas très pratique, voilà.
Vous voyez, je vous parle du célibat, vous me parlez des livres.
C'est pas pour rien. C'est-à-dire que le célibat des dominicains, à mon avis, se vit comme une sorte de discipline et d'ascèse en vue d'une intensité réelle de l'étude. Bon, c'était une erreur au départ, mais en tout cas, ça a été vécu, je crois, par beaucoup comme cela.
Alors, vous parlez de la durée de la vie. Vous avez quand même réduit le temps de l'amour physique. Je vous pose la question parce que vous donnez la réponse dans votre livre. J'ai fait l'amour pour la première fois à
29 ans. Oui. Jusque-là, je ne savais pas ce que c'était que s'unir charnellement avec une femme que l'on désire et que l'on aime. Je l'ai découvert à cette époque-là. Mais comme d'autres, j'imagine, en font l'expérience parce que la chasteté est très difficile à vivre de façon absolument parfaite. Bon, l'Ordre a ceci de grand qu'il permet, si vous voulez, de temps en temps, des fautes, des erreurs et laisse aux individus le temps, si vous voulez, de mûrir leur décision et de perdurer dans les vœux, bon. Mais non sans quelques accidents. Je trouve ça grand et de toute manière, c'est beaucoup plus humain comme ça. Bon. Mais c'est vrai que j'ai été longtemps une oie blanche en matière de sexualité.
Mais vous racontez ça à vos supérieurs ? Ils vous nomment un référent, un expert
Non, ce qui a concerné mes supérieurs, c'est lorsque je suis venu leur dire « je suis tombé amoureux ». Et je ne peux pas continuer d'exercer les charges qui sont les miennes, qui sont un peu écrasantes. C'était au moment où André Gouze fondait Sylvanaise, où il y a eu la sécession des frères Dex avec les frères Garrigue et tous ces gens-là. Bon, et du coup, je leur ai dit, je ne suis plus en mesure d'être à la fois sous-prieur, maître des études, chantre, etc. Donc, et là, ils m'ont dit, écoute, on te donne 6 mois. Essaye de faire le point sur ta vie et tu devras rendre compte tous les mois de ce que tu vis à un frère témoin. Et puis dans 6 mois, on décide de ce que tu fais. Est-ce que tu restes? Est-ce que tu pars?
Alors, vous racontez la longue relation que vous présentez comme un micro-couvent que vous avez eu avec une amie avec qui vous téléphoniez tout l'histoire.
À peu près tous les jours, oui.
Evelyne, et puis aussi la rencontre avec celle qui va devenir, après votre départ de l'Ordre, votre épouse, tout récemment. Alors, on aurait pu passer à cet instant précis où nos auditeurs attendent enfin de la musique de la flûte à bec, parce que c'était votre spécialité. C'était un moyen
de
séduction aussi.
C'est devenu la flûte traversière, oui, peut-être. Oui,
vous le dites, c'est pas moi qui l'invente. Hein. Oui. On aurait pu passer les petits chanteurs à la croix de bois, mais enfin, dans les chorales, c'est vous qui le dites, il y a aussi des opérations de séduction. Alors voilà, brut de décoffrage, Brigitte Fontaine.
Je veux être aimée pour moi-même et non pas pour mes ornements. Je veux être adorée quand même, sans cheveux, sans chair et sans gants. Belle dans le simple appareil d'une fille arrachée au sommeil éternel, éternel. Avec des habits, c'est facile. Avec des bijoux, des fourrures, j'aime ce qui est difficile. Je veux être aimé sans parure. Je veux être aimé pour ma peau et non pas pour des peaux de bête. Aimé pour la soie de mon dos et non pour les soies qui me vêtent. Belle dans le simple appareil d'une fille arrachée au sommeil éternel, éternel. Avec des cheveux c'est facile, on peut se cacher derrière eux. J'aime ce qui est difficile, je veux être aimé sans cheveux. Je veux être aimé pour mon crâne, pour mon petit os pariétal. Je veux que les hommes se donnent pour mon charmant occipital. Belle dans le simple appareil d'une fille arrachée au sommeil éternel.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
En compagnie de François Bosluc qui publie chez Jean-Claude Béart « Pourquoi j'ai quitté l'ordre dominicain et comment l'ordre m'a quitté ». Les journalistes vous disent souvent « il faut bien un peu de sexe, autrement on ne peut pas parler de sujets pareils ». Donc on a fait ce qu'il fallait. On vous dit ça souvent, non ?
On me le dit assez souvent. Je voudrais simplement faire observer que ce livre n'a pas le sexe comme point central. Voilà, c'est
non,
tout.
Mais il y a de même de l'exégèse. Alors parlons exégèse. Vous dites que l'Église est extrêmement bavarde sur les femmes et qu'elle s'appuie sur un tout petit nombre de textes issus de l'Ancien Testament ou bien de Saint Paul, qui sont écrits selon les catégories patriarcales, oui. Et qu'il faudrait peut-être penser à voir d'autres textes.
Peut-être. Bon, et c'est vrai que si on se réfère à saint Paul expliquant que l'homme est le chef de la femme, bon, on se bloque et surtout on se coupe d'une prise de conscience, je crois, qui se généralise dans le monde actuel, à savoir que il n'y a aucune raison de penser jamais que l'homme devrait rester le chef de la femme éternellement. Il y a une mutation dont l'Église devra, je crois, enregistrer l'importance, puis surtout la vérité. C'est tout.
Oui, mais vous êtes drôle, si on adopte l'égalité des sexes, ça fait système, François Bosluc.
Mais bien sûr,
d'ailleurs. Et ça en jaillit surtout.
Mais surtout, et je pense que l'Église est à la veille d'une révision assez déchirante, appelons-la comme ça, hein, d'un certain nombre de blocages à ce sujet, ne serait-ce que tous ceux qui concernent la place de la femme dans l'Église.
Mais alors quand le pape François dit on pourrait peut-être entamer une réflexion sur le rôle de diacre que pourraient avoir les femmes, elles l'ont eu dans les communautés primitives.
Eh bien, on peut considérer que c'est un heureux retour à des ouvertures de l'Église primitive qui se sont refermées depuis, et que ça sera une étape par laquelle probablement il faudra passer.
Oui. Bon, alors, je suppose que avec vos frères et supérieurs, vous n'avez pas nécessairement beaucoup parlé du passage. Je prends le mot au plus beau sens des femmes dans votre vie. Quand vous aviez publié un autre livre, Franc-parler.
Oui.
Vous aviez parlé de l'homosexualité dans l'ordre dominicain, et là, ça avait provoqué quelques réactions. Je vous propose d'écouter le témoignage de quelqu'un que vous avez bien connu, qui est mort en 2001, un correspondant de François Mauriac, pas tout à fait étonnant, le père Jacques Laval. Enfin, il était aussi l'amant du prince Youssoupov, l'assassin de Raspoutine. Il racontait, parce que c'était un homosexuel d'active, son goût dès sa jeunesse pour un beau séminariste yougoslave.
Je suis double, j'espère pas hypocrite, mais double. C'est-à-dire que je suis très gai, je fais rire tout le monde. Et en même temps, en moi, il y a un homme qui pleure sans larmes. Parce que j'ai besoin de tendresse, parce que je n'en trouve pas, parce que la chasteté totale m'est très pénible. Et à l'approche de la guerre, je me dis, je me porterai en première ligne et je mourrai. Je ne me sentais jamais à ma place, c'était peut-être ça ma place, de ne pas être à l'aise. Qu'une fois, je me suis dit, au séminaire ou ailleurs, mais qu'est-ce que je fiche ici ? Donc, j'ai un peu marché sur un fil. J'étais fait pour l'aventure, je suis un aventurier en fait. Et bientôt je vais mourir et je regrette de n'avoir pas assez de n'avoir pas davantage fait confiance à cette aventure de Dieu en moi et dans les autres. Que les autres soient pécheurs, que je sois pécheur, que les uns soient trop sexuels ou les autres trop orgueilleux, tout ça, je m'en fous. Ce qui compte, c'est justement d'être capable de percevoir, quelquefois dans la merde, quelquefois dans l'abjection, qu'il y a toujours une petite étoile et quelque chose qui est merveilleux. Je crois qu'en tout être, il y a quelque chose de merveilleux. Mais il faut souffrir pour s'en approcher, et ça n'est pas facile. Mais c'est ça la grande aventure, de découvrir le passage de Dieu parmi les êtres. Et je suis pas un douanier.
Une nuit magnétique de France Culture intitulée « Règles et désirs ». C'est quand même un ordre extraordinaire, celui que vous avez quitté, François Besflug. Le désir peut s'y exprimer dans un monde de la règle, et on laisse la parole dans des livres, à la radio.
Jacques Laval était exceptionnel. Il était vraiment exceptionnel. Je l'ai très bien connu. Il avait une capacité de franchise courageuse que très peu ont eu, à mon sens, si vous voulez. Et je suis très touché que vous ayez songé à le faire entendre aux auditeurs, parce que des hommes comme lui, s'il y en avait un peu plus, les débats renaîtraient de leurs cendres. Et ce que je regrette, si vous voulez, c'est qu'un homme comme ça, qui était plus poète au fond, et amant de presque mystique d'une certaine franchise, n'ait pas été plus solide conceptuellement, si vous voulez. C'était pas un conceptuel. Donc il était capable de faire des aveux de ce genre, moi qui me bouleverse assez, bon, mais pas de provoquer les gens intellectuels de l'ordre dominicain à une discussion sur ces sujets.
Alors, charpentons, François Besflug, vous étiez enseignant à l'université de Strasbourg, histoire des religions. Qu'est-ce que vous pensez de la thèse de ce dominicain qui est par ailleurs chercheur au CNRS, qui dit que l'angélique docteur, la Thomas d'Aquin, celui qu'on recouvrait d'une hotte noire en 1968, pensait que l'homosexualité était une inclination qui venait du fond de l'âme, et pas comme le désir vulgaire hétérosexuel du corps.
Pour ce qui est de la justesse, si vous voulez, thomasienne, vous voyez, de cette thèse, c'est-à-dire, est-ce qu'elle est, elle rend justice à la subtilité et à la profondeur de la pensée de saint Thomas d'Aquin? Bon, je ne suis pas bon juste parce que je me pose pas en thomiste, en réviseur de savants thomistes. Bon, mais pour ce qui est en revanche de la justesse de la thèse elle-même, c'est-à-dire de la pratique qu'ont les homosexuels, en particulier vis-à-vis des hétérosexuels qu'ils voudraient bien convaincre qu'ils sont des homosexuels qui s'ignorent, je dis non, ça ne colle pas, parce que on ne peut pas dire que c'est une, comment dire, c'est une tendance qui se blanchirait elle-même parce que son fond ou sa source, sa racine, elle est purement intellectuelle. Bon, ça ne colle pas, parce que la plupart des homosexuels auxquels j'ai eu affaire, ils étaient alors solidement charnels.
Et bon. Et alors, est-ce que vous n'avez pas trop lu les récits anti-francs-maçons, par exemple? Est-ce que c'est vraiment charpenté quand vous dites que dans votre ordre, beaucoup de choses se règlent ou ne se règlent pas à cause des réseaux d'amitié?
Ça n'a rien à voir avec mes lectures franc-maçonnes qui sont très récentes.
Je prépare un livre là-dessus.
Bon, oui, mais ça fait partie du dossier. Ça n'a rien à voir. Ça a à voir avec des observations que 50 ans dans une communauté religieuse permettent de faire empiriquement. Je n'ai pas de théorie. Je ne défends aucune théorie d'ailleurs dans ce livre. Simplement, j'ai les yeux ouverts. Je suis iconographe. Je regarde et je note et je mémorise. Bon, ce que j'ai mémorisé, c'est que les homosexuels ont un talent fou pour s'entre-repérer et constituer des groupes qui, petit à petit, si vous voulez, faussent les élections, l'accès aux responsabilités, voire l'accès à la hiérarchie ecclésiastique. Et ça m'inquiète.
L'iconographe doit regarder avec intérêt les séries télévisées. Pi 13, c'est la nouvelle série Sorrentino. Bah, vous faites des soupirs d'aise. Pi 13, c'est l'anti-pape François. Ça devrait vous inquiéter. Il est interprété par Jude Law. Évidemment, la question de l'homosexualité au Vatican est posée. Il est ici avec sa directrice de la communication. Du haut d'une fenêtre, il observe le manège des membres de la curie autour de la première ministre du Groenland, qui est très belle, mais aussi autour surtout de son secrétaire particulier.
C'est Lorenzo Insigne. Qui capte l'attention de la moitié de la curie.
Le secrétaire particulier du premier ministre du Groenland.
Est-il homosexuel?
Ouvertement.
Elle, c'est le premier ministre.
C'est ça. Elle a rendez-vous avec vous, très Saint-Père.
Ne trouvez-vous pas cela bizarre?
Quoi donc, votre sainteté?
Et de l'étiquette, n'exige-t-il pas que l'on s'occupe avant tout du Premier ministre?
Le cardinal secrétaire d'État s'occupe d'elle.
Comment se fait-il qu'autant d'hommes n'aient Dieu que pour un bel homme? Il ne prête aucune attention à cette superbe beauté féminine.
Très Saint-Père, je sais de quelle manière répondre à votre question. Par le silence.
Pourquoi?
On ne doit jamais s'immiscer dans les affaires des autres, surtout pas au Vatican.
Chut, n'en parlons pas, dit la directrice de la communication du Vatican. Quand le pape François tient le même langage que vous, François Besflug, en disant « il y a des réseaux invisibles qui témoignent d'une mondanité dangereuse », tollé.
Oui, mais ça ne veut pas dire qu'il ait tort. Le tollé n'a jamais été un indice de vérité. Bon, et je suis assez heureux qu'il lâche des choses comme ça, tout en souhaitant, si vous voulez, qu'on aille au-delà d'un mot lâché ici, qui ouvre sur pas mal d'hypothèses. J'aimerais bien qu'il les précise.
Mais quand le pape, son prédécesseur Benoît XVI, tente d'écarter des séminaires, comment dit-on dans l'Église, les personnes homosexuelles, vous savez, celles qui ont une tendance, disiez-vous, un inachèvement, une immaturité. Ben non, pourquoi leur fermer la porte?
Mais à mon sens, il est hors de question de leur fermer la porte. Les homosexuels qui découvrent qu'ils sont homosexuels, je ne vois pas pourquoi ils n'auraient pas le droit de faire des vœux religieux et d'accéder à un certain nombre des ordres qui font la vie de l'Église. Vous voulez. Moi, mon but n'est pas une espèce de, je sais pas comment dire, de purification au karcher, mais absolument pas. Mais le contrôle, en revanche, des petits groupes de pression qu'ils risquent fort de constituer, qui à mon avis ils ont déjà constitué lors de l'accès à certaines charges. Oui.
Au fond, plutôt que de rester comme un agent dormant, un peu énigmatique, dont on ne saurait pas vraiment ce qu'il pense, vous avez préféré échanger avec la publication de votre histoire, quitte à perdre la respectabilité, et maintenant vous avez un charisme dormant, vous êtes un charisme dormant dans la société.
C'est un charisme qui, tout dormant qu'il soit, se voudrait parlant et espère réveiller un petit peu la discussion. C'est-à-dire que ce livre, à mes yeux, n'a pas d'autre sens que de dire maintenant, reparlons de tout ça. Bon, j'ai été très facile de quitter un ordre religieux sans rien dire. Il y a eu des centaines et des milliers de prêtres et de religieux qui ont quitté leur état de vie. Ils sont tous partis la queue basse, si j'ose dire, sans rien dire. Bon, on ne sait rien d'eux. Maintenant, il est temps que la discussion reprenne.
Vous allez pouvoir dire maintenant le titre de votre livre, vous en souvenez parfaitement, avec la tonalité, François Besflug.
Pourquoi j'ai quitté l'ordre et comment il m'a quitté.
C'est chez Jean-Claude Béart. L'émission a été réalisée par Valérie Estaraille, à la technique Gaël Braouezek et l'équipe de la Marche de l'Histoire, Marion, Philippe, Martin, Célier, Franck Olivard, Frédéric Martin.